Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Excessif.
Le prof Patrick.
Allez, bah c'est le prof Patrick qui est avec nous tout de suite en studio. Bonjour prof Patrick.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, on était dans la blockchain
la semaine dernière. Ouais, c'est bien, bonne mémoire Mathieu. J'ai entamé une trilogie en quelque sorte, une trilogie qui a commencé par la présentation la semaine dernière de ce qu'était la blockchain. Alors pourquoi ? Ben parce qu'en fait, cette présentation nous permet d'aborder la deuxième partie aujourd'hui qui est les crypto-monnaies. Okay. Il fallait en passer d'abord par l'explication de ce qu'est la blockchain. Et la semaine prochaine, on finira avec les NFT, qui est quelque chose d'encore plus pointu, mais je garde ça pour la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, je suis plein de bonnes résolutions. C'est les bonnes résolutions qu'on prend d'habitude à la rentrée, mais là, je les prends avant les vacances. C'est pas grave. Je vais donner le plan de ma chronique. C'est-à-dire que dans une première partie, on va voir que les crypto-monnaies sont nées du génie des inventeurs du Bitcoin. Ensuite, on définira ce qu'est une crypto-monnaie, ce qui va très vite nous amener à nous demander c'est quoi une monnaie. D'accord ?
Ok.
Et enfin, on se demandera si les crypto-monnaies sont des monnaies. Alors, pas de suspense, la réponse est plutôt non.
Ah ouais.
On répondra donc par la négative en expliquant pourquoi.
Voilà. D'accord.
On y va, Mathieu ?
Ok, vous êtes très scolaire, c'est les épreuves
exactement,
du bac.
Exactement, voilà, tout à fait. On m'a dit, sois plus scolaire, prof Patrick, quand même, mérite ton blaze. Donc, on fait comme ça.
Et bah, allons-y.
C'est parti. Alors, un petit préalable, mais tu vas voir qu'il te rappelle quelque chose, j'en ai parlé semaine dernière. Si on évoque la philosophie des fondateurs d'Internet au début des années 90, et bien cette philosophie, c'est le rejet massif, viscéral de toute autorité, et notamment de l'État. C'est la volonté de créer un monde qui est, j'ouvre des guillemets, c'était des expressions des créateurs d'Internet, partout et nulle part, dont le principe unique devait être la liberté d'accès et d'expression sans entrave. C'est chouette, hein, tout ça. On pourrait mettre des violons derrière moi et on pleurerait tous. Le rejet de toute contrainte, le rejet de toute souveraineté. Une phrase très chouette d'un des fondateurs, nous créons une civilisation de l'esprit dans le cyberespace. C'est-il pas beau, tout ça ?
Ah ouais, c'est le futur, c'est incroyable.
Voilà. Et si tu te souviens bien, en fait, la semaine dernière, dans la chronique sur la blockchain, j'avais expliqué que c'était aussi la philosophie des inventeurs de la blockchain qui ne sont rien d'autre que les inventeurs du Bitcoin.
Ouais.
Donc, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que la crypto-monnaie, elle démarre sur cette philosophie très noble, d'accord, et très radicale, rejet de toute autorité. Alors, le Bitcoin, il est créé fin octobre 2008 par un collectif anonyme qui se fait appeler Satoshi Nakamoto et qui publie un livre blanc qui s'appelle « Bitcoin, un système pair-à-pair de cash électronique ». Dans ce livre blanc, on y décrit le fonctionnement d'une crypto-monnaie, le Bitcoin, et de la blockchain sur laquelle elle s'appuie. Les premiers blocs seront créés par Satoshi Nakamoto le 3 janvier 2009.
D'accord.
Et après, c'est parti. Le Bitcoin sont créés chaque fois que des mineurs, ça c'est un petit rappel de la semaine dernière, mineurs, c'est des personnes qui mettent à disposition du réseau leur puissance ordinateur. Chaque fois que ces mineurs créent un bloc de la blockchain en résolvant un problème cryptographique. Tu comprends qu'il valait mieux parler de la blockchain avant ?
Parce que
si je dis ça avant la chronique, personne ne comprend rien.
On n'y comprend rien.
Le collectif Satoshi Nakamoto a fixé à 21 millions le nombre maximal de bitcoins à ne pas dépasser. Le nombre de bitcoins mis en circulation annuellement est divisé par deux tous les 4 ans. Voilà, c'est le bitcoin.
Okay.
Succès colossal. Deuxième partie de la chronique, c'est très bien tout ça, mais pouf pouf, c'est quoi une crypto-monnaie concrètement ? C'est extrêmement simple. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique, c'est-à-dire qui n'a pas de support physique. Okay ? Elle est en usage sur Internet uniquement, mais surtout, elle est indépendante des autorités bancaires. C'est ça le point le plus important. Et elle est liée à un système de cryptage. Ça, c'est l'aspect blockchain. Pour aller plus loin dans la réflexion, en fait, il faut tout de suite se dire, OK, c'est bien cette histoire, mais c'est quoi une monnaie, en fait hein ?
Ouais.
D'accord ? Parce que c'est ça le sujet principal caché derrière. Alors, en économie, on a coutume de dire qu'une monnaie doit répondre à 3 fonctions. La première fonction, on l'appelle la fonction d'unité de compte, c'est-à-dire que la monnaie doit permettre de donner une valeur à n'importe quel bien. Exemple, cette table, elle vaut 250 euros.
Ouais,
c'est ça la fonction unité de compte, une belle table. Voilà. Deuxième fonction, une monnaie doit répondre à une fonction d'intermédiaire des échanges, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir nous permettre d'acheter et de vendre n'importe quel bien ou service. Donc avec ma monnaie, les euros, tiens donc, j'ai acheté cette table, c'est pas vrai d'ailleurs, c'est Radio Calade qui l'a acheté. l'euro est une monnaie qui a permis, grâce à cette fonction d'intermédiaire des échanges, d'acheter le matériel nécessaire. Troisième fonction, une monnaie a une fonction de réserve de valeur, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir accumuler cette monnaie dans le but d'une dépense future, en faisant en sorte que cette monnaie ne perde pas trop de sa valeur, est une valeur plutôt stable.
Ouais.
D'accord ? Voilà, bon, bah, ok, c'est généralement comme ça qu'on définit une monnaie en économie, hein, c'est aussi simple que ça. D'où la question suivante, les crypto-monnaies remplissent-elles ces trois fonctions ? On va prendre le bitcoin hein, pour essayer de vérifier en quelque sorte. Fonction unité de compte, donner de la valeur à un bien. Cette monnaie, cette table vaut 250 euros, elle vaut, je sais pas, 0,3 bitcoin. Donc en théorie, oui, une crypto-monnaie comme le bitcoin peut servir de fonction d'unité de compte. En théorie.
Pour l'instant, on est bon. On est à peu près bon.
Ouais, bah non, parce que je t'ai dit en théorie.
Ah, mince.
Parce qu'en réalité, le problème, c'est que le Bitcoin, comme toutes les crypto-monnaies, a une valeur qui varie de façon absolument monstrueuse et extrêmement rapidement, en permanence. Ça veut dire qu'en fait, à la limite, on devrait changer toutes les demi-journées le prix en Bitcoin d'un bien, tellement la valeur du Bitcoin ne cesse de varier. Donc ça, c'est un premier problème. C'est presque impossible de l'utiliser en fonction d'unité de compte.
D'accord.
Deuxième fonction, intermédiaire des échanges. Oui, aujourd'hui, il existe des startups qu'on appelle des fintech, c'est-à-dire des startups spécialisées dans la finance, qui proposent des cartes de paiement en Bitcoin et qui font le lien avec notre monnaie officielle, etc. Donc, oui, là aussi, en théorie, on peut utiliser le Bitcoin comme instrument des échanges. Mais là aussi, la volatilité extrême du Bitcoin rend les choses extrêmement compliquées. Mais ça, à la limite, c'est le problème de la fintech. Elle se débrouille, hein, en quelque sorte. Ouais. Mais surtout... objection principale, très peu d'acteurs économiques acceptent le bitcoin comme moyen de paiement. Ouais. Tu vas voir ton, je sais pas, tu vas à la Fnac, est-ce que je peux payer en bitcoin ? Ben, oh, tain, j'ai fait de la pub, bon, c'est pas grave, hein, ouais. Tant pis. Ils vont te dire non.
Ouais.
D'accord ? Ouais, pour être accepté comme pour accomplir sa fonction d'instrument des échanges, ben, il faut être accepté. Et là, c'est un problème. Dernière fonction, est-ce qu'une crypto-monnaie, le bitcoin, peut servir de réserve de valeur ? Ben, j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit à peu près stable. Hein. Ça, c'est le gros problème, c'est que les crypto-monnaies en général et le bitcoin en particulier sont tout sauf stables. Leur valeur varie de façon absolument incroyable. Et donc, l'épargne qu'on accumulerait pourrait grossir ou diminuer dans des proportions absolument gigantesques sans que l'on ait aucun contrôle là-dessus. OK ? Donc, on voit que le problème principal des crypto-monnaies, en général, et du bitcoin en particulier, c'est la volatilité, c'est-à-dire la variation extrême de la valeur de ces crypto-monnaies. Ce qui rend les acteurs économiques pas très désireux de les intégrer comme moyen de paiement. Hein. On se dit, on ne va pas aller se compliquer la vie parce que c'est une horreur. Je vais te donner quelques informations sur l'évolution de la valeur du bitcoin depuis sa création, on va dire depuis 2011 environ, parce qu'avant, personne ne s'y intéressait. Jusqu'à début 2013, la valeur du bitcoin a varié entre 1 et 20 dollars. Ensuite, un an après, début 2014, c'était passé à 770 dollars pour un bitcoin.
En un an,
Ouais, tout à fait. Trois ans après, début 2017, on est passé à 998. Bref, on a aussi entre 770 et 1000. Je dis aussi, mais c'est pas vrai en fait, parce que ils faisaient le yo-yo en permanence. La valeur pouvait monter très haut, chuter, etc. Je te donne juste des points de repère. Ensuite, on était à donc 998 dollars 2017. On passe de début 2018, tiens-toi bien, à 13 000 dollars le bitcoin.
D'accord. Ça commence à faire.
Début 2019, on est tombé à 3 700 dollars.
Ah ouais.
D'accord. Le 13 novembre 2020, on est passé à 19 860 dollars le bitcoin.
Et donc, si on avait acheté à 3000, là, on est.
Eh oui, c'est ce qu'on se dit toujours. Hein. On se dit toujours, j'aurais dû faire ça, a posteriori. Le 8 février 2021, le bitcoin vaut 44 000 dollars. D'accord. En avril 2021, le bitcoin vaut 58 960 dollars. D'accord. Et aujourd'hui, le bitcoin vaut 26 237 dollars.
D'accord.
Donc, c'est des montagnes russes, pas possible. Alors. Objection possible, il existe des stable coins. T'as vu mon accent ? Stable coins, c'est-à-dire en fait des crypto-monnaies stables, structurées pour avoir une valeur stable, alignée sur la valeur du dollar. C'est bien, mais ça justifierait en soi une chronique à part. Donc, on verra à la rentrée si je fais une chronique sur les stable coins. Il y a de quoi dire, ce serait sympa. Quatrième partie de ma chronique, pour bien comprendre pourquoi les crypto-monnaies ne sont pas de la monnaie. On a vu la question de la volatilité, mais on va aller plus loin en fait. On va aller plus loin que ça et on va rajouter des éléments supplémentaires. Et pour ça, on va solliciter l'analyse d'un sage, un sage en économie, un économiste français qui s'appelle Michel Aglietta.
Il y a des sages en économie ?
Ouais. Il faut attendre qu'ils soient très vieux pour qu'ils arrivent au niveau de sagesse de Michel Aglietta. C'est un grand spécialiste de la monnaie. Et Michel Aglietta, il nous explique des choses très intéressantes. Il nous dit que la monnaie n'est pas que cet outil qui remplit les trois fonctions que j'ai expliquées. D'accord ? La monnaie nous permet de faire société. Faire société. C'est un ciment de la société. Ça nous permet de nous reconnaître comme membres d'une société. Comment ça ? Alors là, c'est un petit peu compliqué, je vais essayer d'aller lentement et d'être clair. par le fait que la monnaie participe au processus de finalité des paiements, c'est-à-dire aux mécanismes qui permettent à la société de reconnaître qu'une transaction est valide. La monnaie, si moi j'achète quelque chose avec la monnaie qui est l'euro, la société reconnaît la validité de ma transaction. Et donc l'euro fait société par la reconnaissance que la société apporte à toutes ces transactions. D'accord ? Et c'est en ça qu'on dit que la monnaie est souveraine. Le terme souverain est important. Le problème des crypto-monnaies, c'est qu'elles ne permettent pas ce processus. Les crypto-monnaies, selon Michel Aglietta, ne sont pas souveraines parce qu'elles sont ambivalentes. Ambivalentes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté, les crypto-monnaies aspirent à ce rôle social, elles aimeraient bien avoir ce rôle social, mais de l'autre côté, en fait, on s'est aperçu à ce jour que les crypto-monnaies ne sont rien d'autre que l'instrument du capitalisme dans sa forme la plus extrême et la plus épurée, faire de l'argent avec de l'argent, sans aucune base concrète. D'accord ? On voit la finance, c'est ça. Et donc, par leur ambition originelle de créer une alternative au système monétaire fermé, contrôlé par une autorité, et donc de créer un système ouvert, eh bien, les crypto-monnaies ont de fait créé une situation d'ultra-volatilité, que j'ai évoquée tout à l'heure, ce qui rend leur fonction sociale impossible et qui accentue leur fonction spéculative.
Oui, c'est ça.
D'accord ? Elles aimeraient bien aller vers une fonction sociale, mais elles ont basculé dans l'autre pôle extrême, la fonction spéculative. Alors, on peut se demander pourquoi ces monnaies, ces crypto-monnaies, sont si volatiles, pourquoi leur valeur varie de façon aussi énorme. Et bien Michel Aglietta nous donne la réponse. Il nous dit quand un acteur officiel, par exemple la banque centrale qui crée des monnaies, des billets et des pièces, ou les banques commerciales qui créent de la monnaie scripturale, quand cet acteur officiel crée de la monnaie, et bien cet acteur, la banque centrale ou une banque commerciale, génère dans ses comptes une contrepartie. D'accord ? Et cette contrepartie, c'est une dette. Elle génère dans ses comptes une dette et donc l'acteur en question, la banque par exemple, qui a créé de la monnaie en nous faisant un prêt, eh bien elle prend acte dans ses comptes qu'elle a une dette, d'accord, du fait qu'elle a créé cette monnaie et que cette dette a vocation à être remboursée, donc soit remboursée, soit à minima contrôlée. Les crypto-monnaies sont créées sans aucune contrepartie. Leur valeur n'est tenue par rien, en quelque sorte, et leur valeur peut donc varier à l'infini. Tout comme peut varier, par exemple, la valeur d'une œuvre d'art. Tu sais, les œuvres d'art sur le marché, aujourd'hui, le marché de l'art, ça varie de façon complètement délirante. Eh bien, les crypto-monnaies, c'est un peu la même chose. Conclusion de cette chronique, Mathieu. Comme une malédiction, les êtres humains partent souvent de rêves philosophiques nobles. Et puis, ils semblent encore et toujours condamnés à retomber dans la médiocrité de la nature humaine. Un peu de philosophie de comptoir, ils ont passé le bac de philo, les terminales, c'est très bien. La médiocrité de la nature humaine, c'est quoi ? C'est l'avidité, la soumission aux pulsions du toujours plus. Eh bien, les crypto-monnaies ne font pas exception. Elles sont parties d'un rêve d'autonomie, d'un rêve de liberté, et elles sont devenues l'instrument rêvé des spéculateurs les plus bourrins.
Ouais.
Gagner toujours plus. Ecce homo, pourrait-on dire, je finis avec du latin, je suis trop fort.
Balèze.
Voilà l'homme, ça veut dire.
Très bien.
J'en ai fini, Mathieu.
Merci beaucoup, prof Patrick.
À plus.
À tout bientôt, la semaine prochaine.
Ensemble sur Calade.